Chapitre 96. Raphaël Guidi. Yona gare sa voiture près du parc Kronoberg et traverse rapidement les grandes pelouses en direction du commissariat, tandis qu'il appelle la police de Södertälje. Une sourde inquiétude a commencé de grandir en lui depuis qu'il a quitté le lac alors que Pontus Salman devait être appréhendé. Ce mauvais pressentiment se voit confirmé lorsqu'un agent de Södertälje lui explique qu'il ignore où se trouve Pontus Salman.
« Je vous rappelle, » dit l'homme dans un dialecte du Gotland. « Accordez-moi quelques minutes. »«
Mais vous l'avez bien arrêté. »«
Logiquement, oui. »
dit l'homme d'une voix hésitante.
« J'ai été très clair sur le fait qu'il fallait le prendre en charge. »«
Ce n'est pas la peine de me mettre la pression. Je suis sûr que les collègues ont assuré. »
Il pianote sur son ordinateur, marmonne quelque chose et pianote encore avant de répondre.
« Si, on l'a ici et on a confisqué son fusil, un Winchester 400. »«
Bien. » « Gardez-le. On va envoyer une voiture pour le récupérer. »
dit Yona en sentant une vague odeur de chlore lorsqu'il passe devant les grandes portes vitrées de la piscine Kronoberg. Il prend l'ascenseur et a presque atteint le bureau de Carlos Eliasson lorsque son téléphone sonne. C'est Disa. Il n'a pas vraiment le temps de prendre l'appel, mais répond tout de même.
« Salut, »
dit Disa.
« Tu viens demain ?»«
Tu as dit que tu ne voulais pas fêter ton anniversaire. »
« Je sais. » Mais je me suis dit, juste toi et moi.
Ça me dit bien, dit Yona.
J'ai quelque chose d'important à te dire.
D'accord, dit Yona.
Je
suis désolé, Disa, l'interrompt-il, mais je ne peux pas te parler plus longtemps. Je dois me rendre à une réunion importante.
J'ai une surprise.
Disa, il faut vraiment que j'y aille, dit-il en ouvrant la porte.
Mais
je suis vraiment navré, je n'ai pas le temps.
Il entre, referme la porte derrière lui et s'installe dans le canapé à côté de Saga Bauer.
Nous n'arrivons pas à joindre Axel Rissen et nous craignons que cela n'ait un rapport avec l'autorisation qu'il doit signer, dit Yona. Nous pensons que Raphaël Guidi y est pour quelque chose et c'est pourquoi il nous faut un mandat d'arrêt aussi vite que...
Mandat d'arrêt?
Demande Carlos incrédule.
Axel Rissen ne répond pas au téléphone depuis 2 heures. Il ne s'est pas présenté à son travail ce matin. Et vous pensez qu'il a été kidnappé par Raphaël Guidi, un homme d'affaires reconnu qui n'a jamais été inculpé pour la moindre chose?
Carlos déplie ses doigts un à un.
1. La police suédoise n'a rien sur lui. 2. Europol n'a rien sur lui. 3. Interpol n'a rien. J'ai contacté la police en France, en Italie, à Monaco.
Mais moi, j'ai discuté avec Anya,
dit Yona avec un sourire.
Tu as discuté avec?
La porte s'ouvre. Et Anya Larsson entre.
Depuis environ 10 ans, le nom de Raphaël Guidi est apparu dans 6 enquêtes préliminaires concernant des trafics d'armes, des délits financiers et des décès, dit-elle.
Des enquêtes préliminaires,
objecte Carlos.
Ça ne signifie pas...
Je peux finir?
L'interrompt-elle.
Oui, évidemment.
Les soupçons qui pesaient contre Raphaël Guidi ont été abandonnés dès le début de l'enquête dans presque tous les cas. Et il n'a jamais comparu devant un tribunal.
Rien, dit Carlos.
Son groupe a gagné 123 millions de dollars avec l'opération Tempête du désert en fournissant les missiles Hercule AGM-65 Maverick aux avions de combat Nighthawk,
poursuit Anya après avoir jeté un œil à ses notes pour vérifier ses informations.
Mais c'est l'une de ses entreprises affiliées qui a fourni les lance-roquettes aux forces serbes lorsqu'ils ont descendu le même avion pendant la guerre du Kosovo.
Anya leur montre une photo de Raphaël. Il porte des lunettes de soleil aux verres orangés, des vêtements décontractés, un pantalon bleu barbeau et une chemise ample de la même couleur. Entouré de 2 gardes du corps, il sourit à l'objectif devant une Lamborghini Diablo.
La femme de Raphaël, c'était la fameuse violoniste Fiorenza Collini. 1 an seulement après la naissance de leur fils Peter, elle a eu un cancer du sein. Elle a suivi tous les traitements possibles, mais elle est morte lorsque leur fils avait 7 ans.
Sur une coupure de presse de la Repubblica, une photo représente Fiorenza Collini, un magnifique violon rouge contre l'épaule. À l'arrière-plan, apparaît l'orchestre de la Scala au complet. Le chef d'orchestre Riccardo Muti se tient à ses côtés. Ses cheveux brillent dans la lumière des projecteurs. Fiorenza Collini porte une robe scintillante couleur platine bordée de fils argentés.
Elle sourit, les paupières mi-closes. Son coude droit est positionné vers le bas. Elle tire l'archet. Sa main gauche est située à l'extrémité du manche. Elle joue une note aiguë. Raphaël Guidi, aux côtés d'Alice Cooper, en une de Newsweek, exhibant son nouveau-né. Le magazine attitré « Billion Dollar Baby ». Sur une autre coupure de presse, on le voit en costume clair en train de discuter avec Silvio Berlusconi. Derrière eux, trois blondes au maillot de bain minuscule sont assises autour d'une piscine en marbre rose en forme de cœur. Raphaël Guidi vit à Monaco, mais si on veut le rencontrer, il faut aller en mer, d'après ce que j'ai compris. En ce moment, il passe le plus clair de son temps sur son énorme yacht Teresa. On peut le comprendre. Le yacht a été construit par Lursen à Brême il y a 15 ans, et à l'époque, c'était le plus cher au monde. Une photo tirée du Vogue français représente le bateau en forme de flèche au milieu de la mer, comme un fer de lance en porcelaine. Sur la double page centrale s'étale un article titré « Un lion à Cannes ». Il est accompagné d'une photo prise à bord du yacht de luxe lors du festival de Cannes. Tous les hommes sont en smoking. L'acteur Kevin Costner discute avec Salma Hayek et Raphaël Guidi est encadré par sa femme et la fameuse playmate suédoise Victoria Silvsted. Derrière lui, attendent deux gardes du corps au visage impavide. On devine le port à travers les nombreuses fenêtres de la salle à manger. Des toucans sont enfermés dans des cages à oiseaux qui pendent au plafond. Au centre de la salle, il y a un lion en cage. Ils rendent les coupures de presse à Anya qui dit calmement « On écoute ça tous ensemble ?» Les services de renseignement belges ont enregistré une conversation téléphonique entre un procureur italien et Salvatore Garibaldi, qui était le général de brigade de l'Esercito Italiano, l'armée de terre italienne. Elle distribue une traduction de la conversation, introduit ensuite la clé USB dans l'ordinateur de Carlos, puis lance le programme. Une voix monotone relate en français les circonstances de la conversation, les lieux, la date et l'heure. On entend ensuite un cliquetis métallique et une tonalité lointaine. Il y a un grésillement, puis une voix distincte se fait entendre.
« Je vous écoute, je suis prêt à lancer une enquête préliminaire, »
dit le procureur.
« Mais je ne témoignerai jamais contre Raphaël, même pas sous la torture, pas... »
La voix de Garibaldi disparaît. On entend un nouveau grésillement, puis le silence complet avant que sa voix ne revienne, mais plus faible, comme si on l'écoutait à travers une porte fermée.
« Avec des freins de bouche et des lance-roquettes sans recul, et une putain de quantité de mines. Il y avait des mines terrestres, des mines anti-véhicules, des mines anti-chars. Raphaël n'aurait jamais... Comme au Rwanda, il s'en foutait. Il y avait des gourdins et des machettes, pas de quoi faire fortune. Mais lorsque ça s'est propagé au Congo, il a voulu entrer dans le jeu. Il trouvait que ça devenait intéressant. Il a d'abord armé le FPR, pour bien mettre la pression à Mobutu. Puis il a commencé à fournir des armes lourdes aux Hutus, pour leur permettre d'affronter le FPR. »
Une étrange tonalité siffle à travers le bruissement.
« Cette histoire de cauchemar, je n'y croyais pas vraiment. J'ai dû rester à ses côtés et tenir sa main transpirante. Ma fille, elle avait 14 ans. Tellement belle, tellement belle. Raphaël, il l'a fait lui-même. Il voulait la taillader, criait qu'il possédait mon cauchemar. Je n'arrive pas à comprendre. »
La ligne grésille de nouveau et on perçoit un hurlement. Du verre se brise, l'enregistrement saute.
« Comment est-ce qu'on peut faire des choses aussi ? Il a pris le couteau d'un des gardes du corps, le visage de ma fille, son joli, joli. »
Salvatore et Garibaldi pleurent, se lamentent et s'écrient ensuite qu'il veut mourir, que c'est tout ce qu'il veut. L'enregistrement se termine et laisse place à un silence de plomb. Une lumière dansante s'infiltre par les petites fenêtres qui donnent sur les pentes vertes du parc Kronoberg.
« Cet enregistrement, » dit Carlos après un moment, « il ne prouve rien. » Il a dit au début qu'il ne comptait pas témoigner, donc j'imagine que le procureur a classé l'enquête préliminaire.
Trois semaines après cette conversation téléphonique, la tête de Salvatore et Garibaldi a été retrouvée par un maître chien dans le fossé près du Viale Goethe, derrière l'hippodrome de Rome, dit Anya.
Et la fille? Demande Yona à voix basse. Qu'est-ce qui s'est passé?
Maria Garibaldi, âgée de 14 ans, est toujours portée disparue, dit Anya d'un ton bref. Carlos soupire, marmonne quelque chose, avance jusqu'à l'aquarium et observe un moment ces poissons paradis avant de se retourner.
Qu'est-ce que je peux faire? Vous ne pouvez pas prouver que les munitions sont destinées au Soudan, et vous n'avez pas le moindre indice pour impliquer Raphaël Guidi dans la disparition d'Axel Rissen. Donnez-moi un élément tangible, et j'en parlerai au procureur. Mais j'ai besoin d'un lien, et pas seulement « je sais que c'est lui »,
l'interrompt Yona.
« Et pas seulement que Yona en soit persuadé »,
termine Carlos.
Nous avons besoin d'un mandat et de moyens pour arrêter Raphaël Guidi pour infraction aux lois suédoises et internationales,
s'obstine Yona.
Pas sans preuves,
dit Carlos.
Nous trouverons des preuves,
dit Yona.
Vous devrez convaincre Pontus Salman de témoigner.
Nous allons le chercher aujourd'hui. Mais je crois que ça va être difficile, il a toujours trop peur.
Il était tellement terrorisé qu'il était sur le point de se suicider,
dit Yona. Mais si on arrête Raphaël, il osera peut-être parler. Je veux dire, si ça se calme, dit Saga.
Nous ne pouvons pas arrêter quelqu'un comme Raphaël Guidi sans preuve ni témoin,
dit Carlos avec emphase.
Alors qu'est-ce qu'on fait, bordel?
Dit Saga.
On met la pression à Pontus Salman. C'est tout ce qu'on peut.
Mais je pense qu'Axel Rissen est en danger, dit Yona.
C'est trop urgent pour...
Ils se taisent tous les trois et se tournent vers la porte lorsque le procureur en chef Jens Svanehjelm entre dans la pièce.